Il est maintenant 18h en temps universel, 2h de plus ici à Paris. C'est Radio France Internationale que vous écoutez.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
La suite de RFI Soir pour encore une heure d'information. Tout de suite, c'est le grand journal. C'est avec vous, Mathis Slimado. Bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Et à la une, l'ONU qui condamne une violation de la souveraineté territoriale de la Syrie.
Réaction après la frappe israélienne près du palais présidentiel à Damas. Les autorités syriennes dénoncent une dangereuse escalade. Côté israélien, on parle d'un message envoyé après les violences confessionnelles de ces derniers jours entre Druzes et groupe proche du pouvoir, plus de 100 morts selon une ONG, c'est notre dossier du soir sur RFI. Puis on sera en direct de Washington pour décrypter le budget 2026 dévoilé aujourd'hui par l'administration Trump avec des priorités claires, la défense et la sécurité intérieure. Il avait enregistré une percée historique lors des dernières législatives allemandes, l'AFD classée, parti extrémiste de droite par le renseignement intérieur, de quoi compromettre sa participation aux prochaines échéances électorales. En France, la conférence de presse de la procureure de Nîmes vient de s'achever dans l'affaire Cissé, ce jeune malien tué dans une mosquée du sud du pays. Et puis en Thaïlande, 24 ans de prison, c'est la condamnation d'un milliardaire qui a étendu son complexe de golf à une réserve naturelle protégée.
Ce qui fait la une, c'est ce qui s'est passé en Syrie. Tôt ce matin, Israël a bombardé à proximité du palais présidentiel à Damas.
Une violation de la souveraineté territoriale de la Syrie, condamnée par le secrétaire général de l'ONU. La présidence syrienne dénonce une dangereuse escalade. C'est le dossier de ce 20h avec vous, Alice Froussard, bonjour.
Bonjour.
L'État hébreu frappe au moment où le pouvoir syrien est ébranlé par des violences communautaires.
Oui, tout avait commencé lundi soir après un message audio insultant le prophète Mahomet, un message attribué à un responsable druze et qui s'avère être un faux. Mais des milices d'islamistes radicales, lourdement armées, ont ainsi déferlé sur les communautés druzes de Jaramana et Sahnaya et les forces de sécurité syriennes ont tenté de s'interposer. En tout, plus de 100 morts depuis le calme est revenu, mais ces violences ont réveillé le spectre d'un déchirement de la Syrie selon des lignes communautaires. C'est l'un des défis du président Ahmad al-Shara, réussir à unifier, rassembler le pays, les druzes, y compris cette minorité religieuse qui représente 3% de la population syrienne. Pour le moment, certains dignitaires druzes en veulent au gouvernement qui n'a pas pu contenir ces violences. D'autres, comme le Libanais Walid Jumblatt, un leader politique druze historique respecté de part et d'autre de la frontière, qui s'est déplacé à Damas, a appelé cette semaine les membres de la communauté en Syrie à, je cite, « rejeter toute ingérence israélienne ».
Mais au fond, Alice, en s'immisçant dans ces violences, quel est le message qu'Israël cherche à faire passer ?
Eh bien, à première vue, Israël, qui abrite aussi une population druze sur son territoire, veut se poser en défenseur des minorités de Syrie, un pays avec lequel il est techniquement en guerre. Mercredi déjà, le Premier ministre Benjamin Netanyahou estimait que les frappes sur la banlieue de Damas étaient, je cite, « un message ferme adressé au régime syrien ». Israël attend de lui qu'il agisse pour protéger la communauté druze et que ces frappes avaient visé des groupes extrémistes. En réalité, les drones israéliens ont soufflé un quartier de Sahnaya, blessé des agents de la sécurité générale. Et pour certains, ce soutien bruyant aux druzes de Syrie sert surtout les propres intérêts d'Israël. Écoutez cette habitante druze de Jaramana, jointe par téléphone, qui a préféré rester anonyme.
Israël essaie surtout de diviser la population pour diviser la terre, parce que c'est aussi leur but de mettre la main sur des villes comme Souaïda, Dera et sur les régions du sud de la Syrie. Les Israéliens veulent s'accaparer nos terres, ils veulent occuper des parties de la Syrie, ils utilisent ces violences confessionnelles comme un catalyseur, ils les instrumentalisent comme l'a fait le régime de Bachar al-Assad avant eux.
Depuis la chute de Bachar al-Assad, l'armée israélienne est solidement implantée en Syrie, sur Jabal al-Sher, autrement appelé le Mont Hermon, un sommet syrien. Elle verrouille l'accès au plateau du Golan, au sud de la Syrie, enfin à la triple frontière entre le Liban, Israël et la Syrie. D'après Charles Lister, chercheur spécialiste de la Syrie qui s'exprime sur le réseau social X, Israël milite dans le même temps pour une Syrie décentralisée, affaiblie, voire, je cite, « cherche à encourager un changement de régime, ne voulant pas d'un État fort ». fort à ses côtés. En début de semaine, Bezalel Smotrich, le ministre israélien d'extrême droite en charge des finances, avait d'ailleurs déclaré, je cite, qu'Israël devait démanteler la Syrie.
Merci Alice Froussard, service international de RFI.
Il est 21h05 dans la bande de Gaza où cela fait 2 mois, jour pour jour, que l'aide humanitaire ne rentre plus.
Oui, c'est la plus longue interruption depuis le début de la guerre, alors que l'enclave est assiégée. Israël continue ses bombardements. Encore 29 personnes tuées depuis ce matin, déplore la défense civile. Des Gazaouis privés de tout et qui doivent survivre avec à peu près rien. Selon le comité international de la Croix-Rouge, la situation sur place est au bord de l'effondrement. Lila Olkinyora.
Médicaments, nourriture, carburant, depuis le 2 mars 2025, plus rien ne rentre à Gaza. Les autorités israéliennes ont imposé ce blocus pour forcer, disent-elles, le Hamas à libérer les derniers otages du 7 octobre. Alors quelles sont les conséquences de cette fermeture qui se prolonge ? Le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, a annoncé avoir épuisé tous ses stocks de nourriture. Les cuisines collectives de la Croix-Rouge, qui fournissent aux Gazaouis ce qui est souvent leur unique repas quotidien, ne pourront pas être maintenues et sans réapprovisionnement en médicaments et en carburant, qui alimentent les groupes électrogènes, les hôpitaux seront bientôt incapables de prodiguer des soins vitaux, alors que les structures de santé sont déjà affaiblies par les bombardements. Aujourd'hui, les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza sont à bout de force. Dans un communiqué, le Comité international de la Croix-Rouge appelle à une action humanitaire urgente, faute de quoi, selon l'organisation, Gaza risque de tomber dans un chaos dont plus rien ne pourra la sortir.
La nuit dernière, un navire chargé d'aide humanitaire a été attaqué au large de l'île de Malte.
Un bateau de la flottille de la Liberté, une coalition d'ONG, il naviguait en direction de Gaza. Ses militants accusent des drones israéliens d'être derrière cette attaque qui n'a pas fait de blessés, l'armée israélienne n'a pas souhaité commenter. Par ailleurs, le Liban met en garde le Hamas contre l'utilisation du territoire libanais pour des actions contre la sécurité nationale. Déclaration du Haut Conseil de Défense qui survient après de ressentir de roquettes depuis le Liban vers Israël qui ont entraîné des frappes israéliennes en représailles. Enfin, depuis le début de la guerre, eux disent agir en soutien au Hamas palestinien. L'armée israélienne annonce avoir intercepté 2 missiles lancés depuis le Yémen ce vendredi, des tirs revendiqués par les Houthis.
Rendons-nous maintenant à Washington, où l'administration Trump continue ses efforts pour remodeler l'État fédéral.
Elle publie aujourd'hui son projet de budget pour l'année fiscale 2026, qui commencera le 1er octobre. Nous sommes avec Guillaume Nodin à Washington. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Cette proposition de budget est dans la droite ligne des décrets signés par Donald Trump lors des 100 premiers jours de son administration.
Oui, c'est ce qu'on appelle définir des priorités. Et les priorités de Donald Trump, elles sont claires. Il y a la sécurité intérieure, budget en hausse de 65%, notamment pour sécuriser les frontières. Et il y a la défense, dont le budget, qui passerait pour la première fois les 1 000 milliards de dollars, augmenterait de 13%. De l'argent, notamment, pour la constitution d'un bouclier antimissile ou pour le domaine spatial. Cela devrait permettre à Elon Musk de gagner beaucoup d'argent avec sa société spécialisée. La Maison-Blanche explique d'ailleurs que cette proposition est un projet en commun avec le département de l'efficacité gouvernementale dirigée par le milliardaire. Il n'est donc pas étonnant que les dépenses qui n'entrent pas dans les priorités soient largement sabrées, comme celles qui ont déjà commencé à l'être. Pour le reste du budget fédéral, c'est une baisse de plus de 22%, plus de 160 milliards de dollars, et ces baisses massives. La Maison-Blanche va aller chercher dans l'éducation, l'aide internationale, l'aide aux migrants, les énergies propres, l'agence de l'environnement, la recherche dans le domaine du climat et de la santé. Ce projet, qui en principe n'est qu'une base de discussion, va maintenant être transmis au Congrès, jusqu'ici largement laissé de côté, et qui va donc devoir prendre ses responsabilités face à des coupes budgétaires qui vont parfois toucher des États ou des circonscriptions tenues par des républicains et dont la majorité reste finalement assez courte.
Merci Guillaume Nodin, envoyé spécial permanent à Washington.
Cette question à présent, comment résoudre le problème des droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne ?
Eh bien, en augmentant de 50 milliards d'euros l'achat de produits américains, l'Union se dit prête à le faire par la voix de son commissaire en charge du commerce. C'est une première offre concrète de la part de Bruxelles, Altine Lazage.
Concrètement, Maros Sefcovic propose que l'Union européenne achète plus de gaz naturel liquéfié américain et de produits agricoles comme le soja pour combler le déficit commercial avec les États-Unis. Un déficit que les Européens chiffrent à 50 milliards d'euros alors que l'administration Trump l'estime 3 fois supérieur. Le différent porte sur le calcul. Pour Bruxelles, les autorités américaines ne prennent pas en compte les exportations des services américains vers l'UE. Le commissaire européen a été aussi concret sur les taxes douanières de 10% imposées par Washington sur les produits européens. L'UE ne se contentera pas d'un accord commercial qui maintiendrait à ce niveau les droits de douane, a-t-il souligné. Si les négociations avec les Américains ne sont donc pas dans l'impasse, elles s'avèrent compliquées. Sefcovic a reconnu lui-même qu'il sera très difficile de parvenir à un accord qui soit clairement bon et acceptable pour tous les États membres et le Parlement européen.
La veille, lors d'un appel avec Donald Trump, c'est la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum qui s'est engagée à améliorer la balance commerciale entre les deux pays. Quant aux voisins canadiens avec qui les relations sont plus tendues, le Premier ministre fraîchement élu Mark Carney rencontrera Donald Trump à la Maison Blanche mardi prochain.
Revenons à l'Union européenne avec cette amende qu'elle inflige, 530 millions d'euros.
C'est le montant dont écope TikTok en Europe. Le réseau social chinois ne garantit pas une protection suffisante aux données personnelles de ses utilisateurs européens. C'est la conclusion de l'autorité irlandaise de protection des données qui agit au nom de l'Union européenne dans ce dossier. TikTok est dans le collimateur de plusieurs pays occidentaux soupçonnés d'utiliser ces données à des fins d'espionnage. L'entreprise a annoncé son intention de faire appel.
En Allemagne, le parti AfD pourrait-il participer aux prochaines échéances électorales?
Eh bien, rien n'est moins sûr après que le renseignement intérieur l'ait classé parti extrémiste de droite. L'idéologie de l'AfD dévalorise des groupes entiers de la population allemande et porte atteinte à leur dignité humaine, ce qui est incompatible avec l'ordre démocratique, précisent les renseignements allemands. De quoi relancer donc le débat sur une éventuelle interdiction de l'AfD. Le parti avait fait une percée historique lors des dernières législatives, arrivé deuxième derrière les conservateurs. Beatrix von Storch est députée de l'AfD au Bundestag. Écoutez sa réaction.
Nous allons en faire une affaire internationale. C'est un précédent très dangereux. Si l'opposition peut être interdite dans une démocratie occidentale sur ordre du gouvernement, alors la même chose pourrait se produire dans n'importe quel autre pays du monde, y compris la Turquie par exemple ou les États-Unis. Imaginez si Donald Trump voulait interdire les démocrates sur la base d'un rapport secret, il y aurait alors à juste titre un tollé général en Allemagne et tout le monde dirait « c'est une atteinte à la démocratie ». Quiconque agit ainsi n'est pas un démocrate, et cette affirmation est vraie à l'étranger et elle est également vraie en Allemagne.
À propos recueilli par Julien Chavanne, la chef de l'AfD, Alice Weidel, dénonce un coup dur pour la démocratie à quelques jours de l'investiture du futur chancelier Friedrich Merz. Et cette information de dernière minute, toujours en Allemagne, une voiture a foncé dans la foule à Stuttgart. Pour le moment, la police fait état de plusieurs blessés. On vous tient bien sûr informé dans nos prochaines émissions.
En France, les députés approuvent en commission la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir.
Un serpent de mer d'Emmanuel Macron, le texte a été adopté par 28 députés contre 15. Les débats dans l'hémicycle commenceront le 12 mai et pour 2 semaines.
Et puis les suites de l'assassinat d'Aboubacar Cissé.
Oui, le jeune Malien de 22 ans assassiné le 25 avril dans la mosquée de la Grande Combe dans le sud de la France. Et alors que la procédure d'extradition de l'Italie vers la France de son meurtrier présumé Olivier Adzovic est lancée, la procureure de la République de Nîmes a donné une conférence de presse. Elle vient de s'achever. Cécile Janzac est revenue sur les raisons pour lesquelles le dossier a été confié au pôle criminel de Nîmes qui a ouvert une enquête pour meurtre aggravé par préméditation et à raison de la race ou de la religion et non pas au parquet national antiterroriste comme le réclame pourtant la famille du défunt.
Le ciblage à raison de la race et de la religion n'est pas un critère suffisant de la saisine du PNAT. Le caractère potentiellement international des investigations non plus. La suite des informations que je vous délivrerai vous permettra alors de mieux suivre le cheminement que fut celui du PNAT. Très rapidement, il est apparu que l'agression était le résultat d'un individu ayant agi dans un contexte isolé, sans revendication idéologique, ou lien avec une organisation qui diffuserait une revendication idéologique qu'elle entendrait porter par l'intimidation ou par la terreur. Les ressorts pour agir de l'agresseur sont très vite apparues comme profondément personnelles, envie de tuer, quelle que soit la cible, et fascination morbide. Les faits apparaissent donc à ce stade, construits autour d'une envie obsessionnelle de tuer une personne.
La procureure de la République de Nîmes, Cécile Janzac, avec Laura Martel.
Il n'y a plus de protection policière pour le prince Harry, puisque la justice britannique vient de rejeter son recours.
Oui, depuis 5 ans, le prince Harry et son épouse Meghan ont quitté le Royaume-Uni, perdant par la même occasion toute protection policière, retirée par les autorités. Une décision légalement fondée, a estimé la justice. Dans une interview à la BBC, Harry a déploré ne pas pouvoir se rendre au Royaume-Uni avec sa femme et ses enfants et dit vouloir se réconcilier avec la famille royale.
Et puis ce coup dur pour les gamers.
Absolument, la sortie du prochain GTA est repoussée. Initialement annoncée pour l'automne, le 6e opus de cette saga iconique sortira finalement le 26 mai 2026. Son éditeur invoque d'ultime peaufinage pour rendre l'expérience parfaite. Et pour cause, l'enjeu est de taille. Le précédent opus, GTA V, reste l'un des titres les plus populaires, avec plus de 200 millions d'exemplaires vendus, toutes consoles confondues. Conséquence du report de la sortie de GTA VI, l'éditeur a plongé de 7% à Wall Street. RFI, les 20h15 à Paris, et RFI Soir continue avec vous, Philippe Le Caplin.
Merci Mathis Slimano, on poursuit avec l'actualité sportive. Et c'est avec vous, Babacar Diarra, une page du football français peut-être en train de s'écrire ce soir à Martigues.
Avec une victoire en Provence, le Paris Football Club peut valider sa montée en Ligue 1, et par ricochet, il y aurait la présence la saison prochaine de 2 clubs de la capitale dans l'élite du foot français, du jamais vu depuis la relégation du Matra Racing en 1990. Après un peu plus d'un quart d'heure de jeu à Martigues, il y a 0-0 pour le moment.
Et puis dans moins d'une demi-heure, la 32e journée de Ligue 1 s'ouvrira avec un Nice euphorique et toujours en embuscade dans la course à la Ligue des Champions.
Les Azuréens, 6e, reçoivent le Stade de Reims, 13e, et pas assuré de son maintien. Nice a infligé le week-end dernier au Paris Saint-Germain sa première défaite en championnat de la campagne. Mais il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers et enchaîner dans un peloton très dense pour les places sur le podium. Ce sont les consignes de l'entraîneur niçois Francaise.
Se relâcher à ce moment-là de la saison ou penser que parce qu'on a battu Paris... ça y est, tout est terminé. Non, c'était la 31e journée et il en reste 3 belles journées à jouer et à vivre. Donc on ne peut pas avoir de relâchement, il faut continuer à jouer, continuer à prendre de l'initiative. Après, est-ce qu'il arrivera des 3 derniers matchs, j'en sais fichtrement rien. Mais j'ai envie qu'on donne le maximum pour être fier de notre saison, voilà, avec ses hauts et ses bas.
Et Francaise doit composer ce soir sans 2 grands absents en défense et probablement jusqu'à la fin de la saison d'ailleurs. Le Burundais Youssouf Ndaï Chimiye et l'Égyptien Mohamed Abdelmonem sont tous deux gravement blessés au genou.
Le football sur l'autre rive de la Manche avec un match avancé de la 35e journée du championnat anglais. C'est ce soir, là aussi après le sacre de Liverpool dimanche dernier. Le suspense est entier dans la course aux qualifications en Coupe d'Europe.
Et rien ne garantit que l'on verra Manchester City 4e au classement en Ligue des champion la saison prochaine. Et ce club est sous la menace de Chelsea, Nottingham Forest et même Aston Villa. Les Citizens doivent donc faire le plein de points face à Wolverhampton, un club de milieu de tableau. À City, le Ballon d'Or a repris l'entraînement sans toutefois figurer dans le groupe. Rodri, parce que c'est de lui dont il s'agit, après sa grave blessure au genou en septembre, pour lui la prudence est toujours de mise. Hein. C'est ce que veut son entraîneur Pep Guardiola.
C'était une blessure compliquée, une blessure qui peut durer entre 7 et 11 mois, d'après le docteur. Il se sent vraiment bien, il s'entraîne tous les jours, mais on doit encore attendre. On veut éviter qu'il fasse un pas en arrière et se reblesse, donc il faut rester prudent. Ce qui compte, c'est qu'il fasse une séance, puis une autre, et qu'à chaque fois, il se sente mieux. Et quand le docteur dira « Rodri est stable, il peut commencer à jouer », alors là, il reviendra.
He's going to come back. Pep Guardiola avant la réception de Wolverhampton.
2 informations en basket. Tout d'abord, en Europe, Monaco, qui a une 2e chance de valider sa qualification en demi-finale d'Euroleague.
La Roca Team de l'international guinéen Alpha Diallo a manqué sa première balle de match à Barcelone mercredi avec une défaite 189 sur le parquet catalan. Après les 2 premières victoires sur le rocher, les Monégasques sortent ce soir leur 2e carte joker pour éviter un match décisif à la maison la saison semaine prochaine. Coup d'envoi dans un peu moins d'une demi-heure à Barcelone pour rejoindre les premiers demi-finalistes de l'Euroleague, le Fenerbahçe Istanbul et l'Olympiakos le Pirée.
Le basket aux États-Unis, c'est la NBA, et alors c'est tout un chapitre du basket américain, voire même français, qui vient de se refermer.
Greg Popovich ne sera plus l'entraîneur des San Antonio Spurs de manière définitive, coach le plus victorieux de l'histoire de la NBA avec 1422 victoires. Pardon, il avait déjà pris ses distances avec le banc de touche de l'équipe du français Victor Wembanyama en novembre après un AVC. L'intérim au long cours devient donc permanent pour le quintuple champion NBA, aujourd'hui âgé de 76 ans. Il avait dirigé entre autres un Tony Parker, Boris Diaw ou encore Nando Decolo.
Voilà, beaucoup de basket dans l'actualité, mais pas de basket dans le magazine L'Équipe ce week-end. Antoine Bourlon, vous en êtes le rédacteur en chef. Alors c'est le numéro 2222 qui dit 2 dit duo. Et en couverture, ce couple qui a fait la une aux Jeux Olympiques, ce sont des Américains qui vous ont reçu chez eux au Kansas.
Ouais, bien sûr, Tara et Hunter Woodall, donc le couple qui a un peu marqué les gens lors des Jeux Olympiques et Paralympiques l'année dernière. Donc Tara qui a été championne olympique de saut en longueur, qui a un personnage vraiment haut en couleur, beaucoup de personnalité, toujours en train de rire, de bondir, de partager ses émotions. Et Hunter, donc athlète paralympique de 400 mètres, qui court avec deux prothèses. Et donc ce qui avait surtout marqué les gens, c'était donc lors du sacre de Tara, Hunter était en tribune pour la soutenir, et à l'inverse évidemment quand Hunter a ensuite été champion paralympique, Tara était en tribune. Donc c'est un couple assez marquant de l'athlétisme, qui est aussi connu par le fait qu'ils partagent énormément de choses sur les réseaux sociaux, sur leur vie commune, leurs entraînements, leur épopée. C'est un couple passionnant du sport parce que qui se soutient mutuellement. Tara raconte aussi tous les regards qu'on a portés sur elle du fait de sortir avec un handicapé,
ouais,
tout simplement.
Hunter dit on aime montrer qu'on est juste des gens normaux.
Ouais, parce que eux, ce qu'ils veulent partager et la vision du sport qu'ils partagent, c'est d'être deux athlètes pour le coup très ouverts, qui partagent beaucoup d'émotions avec les gens, avec leurs fans, que ce soit même sur les, je parle des réseaux sociaux, mais c'est aussi vrai sur les stades. Hein. C'est des gens qui communiquent beaucoup avec le public, par les regards, par les gestes, par tout ce qu'ils diffusent. Et donc ce couple, il est passionnant, non pas parce qu'ils sont juste en couple et qu'ils gagnent des médailles, mais par tout ça, par ce qu'ils dégagent et une certaine vision du sport que tout le monde aime. Et en plus, ce qui est rigolo d'aller les voir au Kansas, c'est qu'ils sont pas du tout dans une ville, ils sont perdus au milieu de nulle part. C'est très curieux de voir des gens qui sont hyper ouverts sur le monde, qui ont des milliers d'abonnés, voire des millions, vivre dans un tout petit patelin du cœur des États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aller les rencontrer, qu'on les a mis en une de ce numéro.
Avec ce titre, 2 de l'Olympe, 2 et Dieu, bien sûr, bien de sûr. L'Olympe. Autre duo, Antoine Bourlon, ce sont les frères Inoue. Ce sont des Japonais et tous deux sont des boxeurs.
Ouais, tout à fait. Donc dans ce magazine 2222, on a voulu mettre tous les couples à l'honneur, et les duos surtout, au-delà des couples. Et les frères Inoue, donc ils sont surtout connus, et celui qui est surtout très très connu, c'est le grand frère Naoya, qui est aujourd'hui, on peut le dire sans trop de problèmes, dans les trois meilleurs boxeurs du monde, toutes catégories confondues. En France, on le connaît pas trop, déjà parce que c'est un poids très léger, et en France, on connaît surtout les poids lourds, et même dans la boxe mondiale, on connaît surtout les poids lourds. Mais Naoya, c'est un boxeur honnêtement exceptionnel.
Surnommé Monster, le
ouais,
monstre.
Exactement.
Malgré sa faible constitution, on va dire.
Ouais, il a des statistiques exceptionnelles, énormément de ceintures de champion du monde. Franchement, c'est une superstar au Japon. Il remplit les plus grandes salles et ce week-end, il combat aux États-Unis. Et ce qu'on a voulu raconter, au-delà de faire un portrait de Naoya, qui est un des plus grands boxeurs donc de la planète, c'est aussi raconter le parcours de la saga familiale. Il y a aussi le papa qui a été un boxeur de petit niveau. Et comment les deux se sont formés, comment aussi le petit frère vit dans l'ombre du grand frère, parce que tout le monde dit évidemment qu'il n'est pas aussi fort, enfin le dit et le constate, ce qui est vrai. Et donc c'est toute cette saga qu'on raconte et comment ils vivent tous les deux à des niveaux différents dans la boxe. Le petit frère évidemment un grand boxeur aussi, hein, non pas que, mais pas du tout comme son grand frère.
Des frères, les frères Inoue au Japon. En France, ce sont les frères Ladevant qui ont suscité votre intérêt. Ils sont donc français et champions tous deux d'escalade.
Ouais, bien sûr. Donc deux frères qui en plus se ressemblent énormément dans le style, dans ce qui les anime
tous les
au quotidien.
Deux, la petite moustache,
la même pilosité d'ailleurs. Ouais. On a ça qu'on a mis, le même style, pas la même vraiment façon de grimper. Mais ce qu'on a voulu raconter, c'est vraiment comment on vit à deux au plus haut niveau de l'escalade, parce qu'ils font vraiment partie des meilleurs grimpeurs français et même des meilleurs grimpeurs du monde. Et aussi, ce qui porte les frères là-devant, c'est un message autour de l'écologie, parce que eux, ce qu'ils constatent depuis plusieurs années, c'est un déjà le réchauffement des températures, et d'ailleurs c'est le titre du papier, c'est maintenant on grimpe en t-shirt, même dans des zones montagneuses, il y a beaucoup de structures, donc eux, ils grimpaient sur la glace, maintenant ils grimpent aussi sur des structures en bois, qui avant étaient parfois un peu des deux, maintenant c'est vraiment que du bois. Donc voilà, ils racontent aussi une certaine évolution de leur sport, comment tout ça va évoluer encore plus dans les années à venir, parce que c'est pas fait pour s'arranger. Et donc voilà, c'est le message que, en tout cas, ces deux frères français portent.
Dites-nous, Hamout, ce portfolio consacré au Grand National, qui est un meeting hippique très réputé en Angleterre.
Hein. Oui, bien sûr, c'est la visite un peu de la semaine en portfolio avec le photographe anglais Théo McInnes, avec qui on a beaucoup l'habitude de travailler, riche en couleurs. Le Grand National, pour faire simple, en fait, c'est l'équivalent un peu du Grand Prix de l'Arc de Triomphe en France à Longchamp. Donc c'est une course très réputée et évidemment, c'est le monde hippique est très chic.
Oui, il y a des élégantes avec des chapeaux, forcément, ouais, comme on a en Angleterre.
Évidemment.
Mais au Grand Prix de Diane, c'est à peu près la même chose ici,
oui,
en France.
Voilà,
hein.
Exactement, c'est un peu le jumeau. Et il y a aussi tout un kitsch un peu anglais autour de ces courses hippiques, et notamment celle-ci au Grand National, qui a aussi lieu à Cheltenham, une autre. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on a voulu montrer, c'est le kitsch anglais réuni au même endroit pour la course hippique.
Merci Antoine Bourlon, tout cela est donc à lire dans le magazine L'Équipe ce week-end.
RFI Soir, Philippe Le Caplin.
Depuis l'attentat qui a fait 26 morts dans le Cachemire indien, la tension entre l'Inde et le Pakistan est à son comble. Après l'escalade diplomatique, les deux pays sont maintenant au bord de l'affrontement militaire. Des Cachemiris voient ainsi leur maison rasée au nom de la lutte contre le terrorisme, comme Bastin, avec Azik Kadri pour faire le point sur la situation.
Un silence lourd règne à Pulwama, au sud du Cachemire. Le 26 avril, les forces de sécurité indiennes sont intervenues dans ce village où un habitant est soupçonné d'être lié à l'attentat. De nombreuses maisons ont été dynamitées et leurs occupants vivent depuis dans les ruines.
L'armée est arrivée à 7 heures du matin et ils nous ont conduits à la mosquée. Ils nous ont laissé partir à midi et lorsque nous sommes revenus, beaucoup de maisons étaient en ruine. S'il y avait un militant impliqué, pourquoi s'en prendre à tous les voisins ?
Abdul Rachid, 68 ans, a tout perdu lors de cette opération de représailles indiscriminées, une méthode courante en Inde, bien qu'en dehors de tout cadre légal.
Ils ont fait exploser notre maison. Même la mosquée tremblait. On a eu très peur. Certains habitants se sont évanouis. Il a fallu de l'eau pour les ranimer. Beaucoup se sont mis à pleurer.
Depuis que l'Inde a désigné le Pakistan comme responsable de la tuerie, beaucoup d'Indiens jugent que la priorité est de punir leurs voisins. Les Cachemiris, eux, voient revenir dans l'indifférence leur cauchemar, être pris entre les feux des exactions des groupes militants et de la répression de l'armée indienne. Azina, mère de famille de 42 ans.
Le mariage de mon frère était prévu dans 10 jours, mais ils ont tout détruit. S'ils nous avaient prévenus, on aurait peut-être sauvé certaines choses. Ils transforment cet endroit en Palestine. C'est une injustice totale.
Dans l'escalade des sanctions, les deux pays ont décidé du renvoi mutuel de leurs ressortissants. Bien que rares, les familles mixtes indo-pakistanaises se retrouvent aujourd'hui écartelées. Bachir est pakistanais, mais vit dans le Cachemire indien. Avec sa femme, ils ont 3 enfants, dont 2 sont nés au Pakistan et l'un en Inde.
J'étais sorti pour mon travail et j'ai reçu un appel de ma famille. Ils avaient reçu une notification de la police demandant à ma femme et mes 2 filles de quitter le pays.
Bachir et sa famille refusent d'être séparés et sont terrés chez eux, dans l'angoisse.
Cette séparation est insupportable. Qu'ils nous tuent, ce serait mieux. Ce serait fini. Comment peuvent-ils séparer un fils de 10 ans de sa mère ? Que va devenir mon fils tout seul en Inde ?
L'embrasement renforce la suspicion contre tous les musulmans soupçonnés de sympathie avec les indépendantistes du Cachemire, le seul État à majorité musulmane de l'Inde. De nombreux cas de harcèlement par la police ou par les groupes extrémistes hindous sont signalés. Azik Kadri, Pulwama, Combastin, Bangalore, RFI.
Alors qu'il sera bientôt 23h30 à Islamabad, au Pakistan, dont on vient de parler donc à l'instant. Dans une minute, ce sera l'actualité sur le continent africain.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
Bruno Faure.
Nous vous proposons un voyage au Groenland qui, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, est au centre des attentions. Pour ses minerais critiques, pour les hydrocarbures de l'Arctique, mais ce territoire danois, et qui entend bien le rester, vit surtout de la pêche et développe désormais son tourisme.
Éco d'ici, éco d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Jean-Marie Emébé qui publie deux points ouvrez les guillemets, son parcours de champion d'Afrique entre 1976 et 1994. Surnommé le chasseur pour ses KO légendaires, lui qui aura boxé pour le drapeau camerounais et français remonte sur le ring de la mémoire.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Dimanche à 15h10 temps universel et en podcast sur RFI.fr.